Qu'est-ce qu'une vie réussie? Lorsque les années passent de plus en plus, je suis tenté de me demander, est-ce que j'ai réussi ma vie? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Est-ce que c'est une question qui vous trotte par la tête? Aujourd'hui, nous allons regarder la fin de la vie d'Abraham. Est-ce que Abraham a vécu, est-ce qu'il a réussi sa vie? Quand Abraham a quitté son pays d'origine, tout avait l'air très prometteur. Dieu lui avait promis un pays, le pays de Canaan. Dieu lui avait promis un peuple, il aura une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. Dieu lui avait promis une protection, une prééminence. Et Dieu lui avait promis la propagation de la bénédiction. Toutes les nations de la terre allaient être bénies grâce à Abraham. Alors aujourd'hui, nous regardons la fin des jours d'Abraham. Est-ce que Abraham a réussi sa vie? Notre message de ce matin sera un peu inhabituel. Nous avons trois chapitres de Genèse à lire. Pour les visiteurs, ça fait beaucoup plus que d'habitude. Mais toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Donc ça ne fait pas de mal. Et parce que nous allons lire trois chapitres, je vais essayer de dire moins que d'habitude. Alors, je vais prier et puis je vais demander à Guy Stevie, de venir lire Genèse 23. Mais prions ensemble. Notre Père Céleste, effectivement, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, nous te demandons de nous enseigner, de nous convaincre, de nous corriger, de nous instruire dans la justice. Et que nous puissions découvrir ce que ça veut dire réussir sa vie. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Donc, Guy Stevie, et je vous invite à trouver Genèse 23. Genèse 23, c'est à la page 16.
Alors, je commence. Sarah vécut 127 ans. C'est la durée de sa vie. Elle mourut à Kirjath Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham vint mener deuil sur Sarah et la pleurer. Puis il s'éloigna de son corps et dit aux Hittites, « Je suis un étranger et un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. » Les Hittites répondirent à Abraham, « Écoute-nous, Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos lieux de sépulture que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son tombeau pour que tu enterres ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant la population du pays, devant les Hittites. Puis il leur dit, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'éloigne de moi, écoutez-moi. Intercédez pour moi auprès d'Éphron, fils de Tsokar, pour qu'il me cède la grotte de Macpéla, qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ. Qu'il me la cède contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. » Or, Éphron était assis parmi les Hittites, et Éphron le Hittite répondit à Abraham devant les Hittites et tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ ainsi que la grotte qui s'y trouve. Je te les donne en présence de mes compatriotes. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant la population du pays et dit à Éphron devant la population du pays, « Écoute-moi, je t'en prie, je donne le prix du champ. « Accepte-le, et j'y enterrerai mon mort. » Éphron répondit à Abraham, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 pièces d'argent, qu'est-ce que cela entre nous? Enterre ton mort. » Abraham comprit Éphron et lui pesa la quantité d'argent qu'il avait indiquée devant les Hittites, 400 pièces d'argent d'après le cours en vigueur chez les marchands. Le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouvent, avec tous les arbres qui sont dans le champ, dans la limite de son pourtour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham en présence des descendants de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra sa femme Sarah dans la grotte du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent furent ainsi accordés comme propriété funéraire à Abraham par les Hittites.
Le peuple de Dieu n'est pas épargné. Le peuple de Dieu n'est pas épargné de la tristesse, de la mort. Et Abraham voit le décès de sa femme, de sa princesse Sarah. Ils ont vécu une vie de nomades et à l'âge de 127 ans, Sarah meurt. Et pour sa mort, Abraham cherche un endroit fixe pour enterrer sa princesse. Il aurait pu naturellement rentrer chez lui pour enterrer Sarah près de son peuple, dans son pays d'origine, dans la tombe de ses ancêtres. Mais Abraham n'a pas de nostalgie pour son pays d'origine. Il ne veut pas y rentrer. Il décide plutôt de s'investir. Il décide surtout d'investir dans la terre promise. Dieu lui a promis le pays de Canaan. Et donc c'est à Canaan qu'Abraham veut enterrer sa femme. Et donc il négocie avec le peuple du pays et réussit à acheter une grotte et un champ où il pouvait enterrer sa femme. Et ce texte sert comme acte d'achat. Il n'y a pas d'agent immobilier, il n'y a pas de notaire, mais c'est sûr et certain, Abraham est devenu propriétaire. Propriétaire d'une petite parcelle de terre en Canaan, dans la terre promise, dans le pays que Dieu lui a promis. Mais il faut admettre que ce n'est qu'une petite parcelle de terre. Abraham voit seulement de loin la possession du pays que Dieu lui a promis. Est-ce une vie réussie? Je passe la parole à Sylvette qui va lire pour nous Genèse 24, la suite de l'histoire. Elle va ne pas lire quelques versets au milieu où le serviteur répète ce qui s'est passé déjà. Sylvette. Genèse 24. Voilà, 49. Merci.
Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Et Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse et je vais te faire jurer, au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac, dans mon pays et dans ma patrie. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays. Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, eh bien tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y conduiras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son seigneur, Abraham, et lui jura de se conformer à ses paroles. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur et il partit avec tous les biens de son seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie, dans la ville de Nachor. D'accord. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche pour que je boive » et qui répondra « Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux » soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel. Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon seigneur » et s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets. Puis il dit « De qui es-tu la fille ? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nacor. » Elle lui dit encore « Il y a de la place, de la paille et du fourrage en abondance chez nous et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit chez la famille de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter tout cela à sa mère. Rebecca avait un frère du nom de Laban. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur. Et il avait entendu sa sœur Rebecca dire « Voici comment m'a parlé cet homme ». Il vint donc vers cet homme, toujours près des chameaux, vers la source. Il lui dit « Viens, toi qui es béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors ? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux. Il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, ainsi que de l'eau pour laver les pieds de l'homme et de ses compagnons. Puis il lui servit à manger, mais l'homme dit « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle !» dit Laban. Là, on saute jusqu'au verset 49 parce que le serviteur il raconte à Laban exactement ce qu'on vient de lire. « Maintenant, si vous voulez faire preuve de bonté et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon dites-le-moi et je m'en irai d'un côté ou de l'autre. » Laban et Bethuel répondirent « C'est de l'Éternel que ça vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, emmène-la en repartant, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère. Puis ils mangèrent et burent, lui et ses compagnons, et ils passèrent la nuit là. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit « Laissez-moi repartir chez mon Seigneur. » Le frère et la mère de Rebecca dirent « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu pourras partir. » Il répondit « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir, que j'aille chez mon Seigneur. » Alors ils répondirent « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit « Oui. » Alors ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca et lui dirent « Toi qui es notre sœur, deviens l'ancêtre de millions de personnes et que ta descendance possède les villes de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca et repartit. Quant à Isaac, il était revenu du puits de l'Acaïroi et habitait dans la région du Négev. Un soir, qu'il était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Voici que des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle demanda au serviteur « Qui est l'homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Le serviteur répondit « C'est mon seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca. Elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi Isaac fut consolé après la perte de sa mère.
Merci Sylvette. Donc, après avoir cherché un pouvoir pour sa famille en achetant une tombe familiale, maintenant Abraham cherche un pouvoir pour sa famille en cherchant une femme pour son fils, Isaac. Et ça aurait été simple de trouver une femme parmi les autochtones, mais Abraham a compris que si Dieu a fait des promesses à lui, à sa famille, il devait aussi trouver une femme parmi sa propre famille. Et si Abraham est maintenant trop âgé pour voyager, il aurait pu aussi facilement envoyer Isaac dans son pays d'origine pour trouver sa chérie. Mais Abraham fait tout pour que lui et son fils Isaac restent dans la terre promise. Il n'a pas de nostalgie pour son pays. Encore une fois, Abraham ne part pas. Il n'envoie pas Isaac, et si Abraham envoie son serviteur, les instructions sont très claires. Le verset 6 dit « Garde-toi bien d'y conduire mon fils ». Abraham est tellement attaché à la promesse du pays. Il veut que son fils reste attaché aussi à cette promesse du pays. Il ne veut pas mettre son fils dans une situation où il pourrait tenter de rester ailleurs. Et dans sa bonté, et dans sa fidélité, dans sa providence, c'est-à-dire sa façon de maîtriser toutes choses, et en réponse aux prières du serviteur, Dieu pourvoit une femme pour Isaac. Et ainsi, Dieu pourvoit pour la promesse d'une descendance pour Abraham. Dieu avait promis à Abraham qu'il aura une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel, que les grains de sable sur les plages, que la poussière de la terre. Dieu a promis une descendance à Abraham au travers d'Isaac, et ici, Dieu est en train de mettre les choses en place. Mais encore une fois, il faut reconnaître, n'est-ce pas, que Abraham ne voit pas cette descendance nombreuse. Il ne voit que son fils Isaac et sa femme Rebecca, et l'espérance d'une descendance à venir. Est-ce une vie réussie? Je passe la parole à Virginie, qui va lire le chapitre 25 pour nous. Le chapitre 25 jusqu'au verset 18. Merci Virginie.
Abraham prit encore une femme du nom de Ketoura. Elle lui donna Zimran, Zokshan, Médan, Madian, Jispak et Chouar. Jokshan eut pour fils Séba et Dédan. Les descendants de Dédan furent les Ashurim, les Letushim et les Lommim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Tous ceux-là sont des descendants de Ketoura. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, il leur fit des cadeaux et les envoya de son vivant loin de son fils Isaac, vers l'est dans un pays d'Orient. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il alla rejoindre les siens. Ses fils, Isaac et Ismaël, l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, dans le champ du Hittite Éphron, fils de Tsokar, vis-à-vis de Mamré. C'était le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites, et c'est là que furent enterrés Abraham et sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Celui-ci s'installa près du puits de Lakaïroï. Voici la lignée d'Ismaël, fils d'Abraham, celui que l'Égyptienne Agar et la servante de Sarah avaient donné à Abraham. Voici le nom des fils d'Ismaël, leur nom en fonction de leur lignée. Nébajos, son fils aîné, Kédar, Adbel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Adat, Tema, Jessur, Naphish et Kedam. Voilà quels furent les fils d'Ismaël avec leur nom d'après leur village et leur campement. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. La durée de la vie d'Ismaël fut de 137 ans, puis il expira. Il mourut et alla rejoindre les siens. Ses descendants habitèrent le territoire situé entre Ravila et Shur, qui est en face de l'Égypte, en direction de la Syrie. Il s'établit en face de tous ses frères.
Merci.
Virginie, tu as eu la course paille là. merci. Et ainsi finit l'histoire d'Abraham. Il décède après une heureuse vieillesse. Il est enterré à côté de sa femme dans le pays de Canaan, dans la tombe qu'il avait achetée pour sa femme. Mais où sommes-nous avec les promesses de Dieu? Le pays, nous voyons plutôt une grotte et un champ. La promesse pour le peuple, Dieu a accompli sa promesse pour Ismaël. Dieu avait dit qu'il aura 12 fils et on les rencontre ici. Mais pour Isaac, alors nous ne voyons qu'un homme et sa femme Rebecca. La promesse de Dieu pour la protection, c'est vrai qu'Abraham meurt âgé et rassasié de jours. Mais bon, à la fin, les descendants d'Ismaël s'établissent en face de tous ses frères. Et je pense que ça suggère qu'ils ne s'entendent pas très bien. La prééminence, alors Abraham décède sans faire beaucoup de bruit. Il n'y a pas d'indication que d'autres sont venus à son enterrement. Et pour la promesse de la propagation de la bénédiction envers toutes les nations, alors c'est vrai que avant sa mort, Abraham donne des cadeaux au fils de ses concubines, mais c'est seulement Isaac, un seul fils, qui reçoit la promesse de la bénédiction. Est-ce une vie réussie? Quel bilan est-ce que nous devons faire à la fin de la vie d'Abraham? Une dernière lecture, s'il vous plaît. Je vous demande d'ouvrir votre Bible à Hébreux 11, Hébreux 11, c'est à la page 794. 794, Hébreux 11. Et je vais lire à partir du verset 13. Hébreux 11, le verset 13, à la page 794. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Et c'est bien le cas d'Abraham et de Sarah. Mais ils les ont vus et salués de loin. Est-ce que vous voyez comment Abraham et Sarah ont vu et salué les promesses de Dieu de loin? Abraham a eu sa parcelle de terre dans la terre promise. Il est resté attaché à la terre promise. Il a vu l'arrivée de son fils Isaac. Il a vu l'espérance pour une descendance à venir. Mais il n'a pas reçu les biens promis. Pourtant, jusqu'à la fin de ses jours, Abraham a cru les promesses de Dieu. Il a continué à croire les promesses de Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Et voici une vie réussie. Nous lisons ici qu'Abraham a vécu comme un étranger, comme un voyageur sur la terre. Il a habité dans ses tentes. Il a souvent bougé dans le pays que Dieu lui a promis, mais qu'il ne possédait pas. Mais il n'est pas rentré chez lui, ni pour enterrer sa femme, ni pour chercher une femme pour son fils. Il a tout fait pour que ni lui ni son fils ne quittent pas la terre promise. Il n'avait pas de nostalgie pour son pays d'origine. Il aurait pu y retourner, mais il désirait une meilleure patrie. Abraham désirait une meilleure patrie. D'abord, le pays que Dieu lui avait promis, mais selon l'Épître aux Hébreux, Abraham désirait aussi une patrie céleste. Il désirait aussi, par sa façon de vivre, par sa foi dans la promesse de Dieu, il montrait qu'il désirait une meilleure patrie. La patrie céleste où on vit avec Dieu. Et les derniers mots que j'ai lus ici me font chaud au cœur. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alors, la vie d'Abraham, est-ce une vie réussie? Il n'a pas reçu les biens promis, on aura tendance à dire non. Mais parce qu'il a eu foi, parce qu'il a cru aux promesses de Dieu jusqu'à la fin de sa vie, nous devons dire oui, c'est une vie réussie. Il voulait vivre dans le pays que Dieu lui a donné, garder ses yeux fixés sur ses promesses. il a vécu en conséquence jusqu'à sa mort. C'est une vie réussie. Et que Dieu nous donne de suivre les traces d'Abraham. Si nous avons mis notre foi en Jésus, nous attendons aussi une meilleure patrie, une patrie céleste. Par sa vie, Jésus a vécu une vie parfaite que je ne pourrai jamais vivre. Et par sa mort, Jésus a payé la peine complète que je ne pouvais jamais payer. Et il nous a préparé une cité, une place dans la cité céleste où il n'y aura plus de mal, ni chez moi, ni chez les autres. Jésus, par sa mort, par sa vie, nous a préparé une place dans la cité céleste où il n'y aura plus de mort, plus de maladies, plus de malins, et nous serons avec Dieu. Et aujourd'hui, nous attendons cette patrie céleste. Nous croyons que Jésus a tout fait pour nous. Nous attendons la patrie céleste que nous verrons après la mort ou au retour de Jésus, s'il revient avant notre mort. Et nous vivions en conséquence, nous gardons les yeux fixés sur cette patrie céleste. Alors, qu'est-ce qu'une vie réussie? Est-ce que c'est recevoir ce que je veux maintenant? Non. C'est persévérer par la foi en Jésus-Christ en attendant cette patrie céleste. Et que Dieu nous aide à marcher dans les traces d'Abraham. Mais avant de finir, une deuxième chose aussi. Si jamais quelqu'un vous dit qu'une prière n'est pas exaucée parce que vous n'avez pas assez de foi, sachez qu'Abraham, il n'a pas reçu les biens promis. Par contre, c'est un modèle de foi pour nous. Et donc, on va s'arrêter là. Dieu voulant, dans les mois, dans les années à venir, nous allons voir la suite de l'histoire, comment Dieu œuvre pour accomplir ses promesses avec Isaac et Jacob et la descendance qui vient. Mais à la fin de notre rencontre, autour d'un café, pendant notre pique-nique ensemble, pourquoi pas nous discuter les uns avec les autres, ce que vous avez appris de la vie d'Abraham. Pourquoi pas ne pas discuter de comment sa vie va transformer notre vie. Et je vais prier pour finir. Prions ensemble. Notre bon Père Céleste, nous voulons suivre les traces d'Abraham. Nous voulons persévérer dans la foi, croire à tes promesses et vivre en conséquence. Merci pour Jésus, merci de ce qu'il a vécu, la vie parfaite que nous ne pouvions jamais vivre. Merci parce que par sa mort, il a payé la peine complète que nous ne pourrions jamais payer. Merci de ce qu'il a préparé une place pour nous, avec toi, dans la patrie céleste. Et que tu nous aides à persévérer par la foi, même jusqu'à la fin de nos jours ou jusqu'au retour de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Amen.